Bonsoir. Angela Merkel limoge son maître espion Hans-Georg Maaßen, soupçonné de travailler avec l'extrême droite, mais la chancelière allemande a dû lui trouver une autre fonction, secrétaire d'État à la sécurité. La polémique ne faiblit pas en Allemagne, c'est ce que nous verrons avec Nathalie Versieux. En Syrie, la défense antiaérienne du régime Assad abat un avion russe, il y a 15 morts. Moscou a dans un premier temps mis en cause dans cet incident un navire français, puis des avions de chasse israéliens. Ce soir, Poutine calme le jeu, nous verrons cela avec Franck Cognard. Invité de ce journal, le réalisateur Christophe Ruggia. Nous évoquerons avec lui le sort du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, en grève de la faim depuis 3 mois dans sa prison en Russie. En France, Gérard Collomb annonce son départ du gouvernement après les élections européennes de mai prochain. Le ministre de l'Intérieur veut reprendre la mairie de Lyon en 2020. La bataille des municipales est lancée, nous expliquera Stéphane Robert. Angela Merkel a donc fini par trancher. La chancelière a démis de ses fonctions le chef du renseignement intérieur allemand, Hans-Georg Maaßen, soupçonné de collusion avec l'extrême droite. Son limogeage a été acté lors d'une réunion de la coalition au pouvoir à Berlin. Le SPD voulait la tête de Maaßen, qui était soutenu par le ministre de l'Intérieur, le conservateur bavarois Horst Seehofer. La victoire n'est pas totale pour les sociodémocrates, puisque Hans-Georg Maaßen bénéficie d'une promotion. Il entre au gouvernement. Nathalie Versieux nous appelle de Berlin.
Angela Merkel a obtenu la tête de Hans-Georg Maaßen, le très contesté chef des services de renseignement. Mais ce qui apparaît comme une victoire à première vue prend de plus en plus des allures de camouflet pour la chef du gouvernement. Hans-Georg Maaßen, critique envers sa politique migratoire, va en effet rebondir comme secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur sous la protection de Horst Seehofer, le plus contestataire des ministres d'Angela Merkel. Avec 3 000 euros de plus par mois dans ses nouvelles fonctions, Maaßen va même connaître une juteuse promotion. Il n'en fallait pas davantage pour provoquer la colère de l'opposition. Maaßen s'indigne, le chef des Verts va être promu pour avoir brisé la confiance de l'opinion dans les services de renseignement. Tout cela va un peu plus affaiblir la confiance dans les institutions et la politique, ajoute Robert Habeck. Le parti d'extrême droite AfD se frotte déjà les mains, tandis qu'à gauche, les néo-communistes de Die Linke dénoncent une farce politique.
Nathalie Versieux, merci. Hans-Georg Maaßen avait notamment affirmé qu'il n'y avait pas eu de chasse aux étrangers à Chemnitz après le meurtre d'un Allemand le mois dernier. Dans cette affaire, l'un des deux suspects arrêtés, un migrant irakien, a été remis en liberté, faute de preuves pour l'incriminer. Un Syrien reste en détention et un autre suspect, irakien également, est toujours en fuite. En Syrie, un avion militaire russe a été abattu la nuit dernière par les forces syriennes du régime Assad. Il s'agit, selon toute vraisemblance, d'une méprise qui a coûté la vie aux 15 membres d'équipage présents à bord. Ce soir, Vladimir Poutine évoque des circonstances accidentelles tragiques. Mais ce matin, Moscou avait dans un premier temps incriminé une frégate française présente en Méditerranée. Les Russes ont ensuite pointé la responsabilité indirecte des Israéliens, un imbroglio diplomatico-militaire que nous explique Franck Cognard.
Quelques heures après la disparition des écrans radars de l'Ilyushin 20, la Russie envisage une piste française. La frégate Auvergne, disent les Russes, a conduit une mission de tir au même moment, dans la même zone. Réponse très claire et immédiate de l'état-major français, il n'y a pas eu de tir de missile, il n'y a aucune implication possible. Et dans la matinée, Moscou finit par reconnaître que c'est une batterie antiaérienne syrienne, donc alliée, qui a abattu son Ilyushin, mais précise différentes sources russes, à cause d'avions israéliens. Ces derniers, en mission de bombardement, auraient créé une certaine confusion dans le ciel syrien et un missile destiné aux chasseurs israéliens aurait finalement touché l'appareil russe. Voilà pourquoi Vladimir Poutine évoque un tragique accident alors qu'Israël exprime sa tristesse. Moscou et Tel Aviv entretenaient jusque-là des relations cordiales, mais un porte-parole de l'armée russe a déclaré que son pays se réservait le droit de répondre à ce qu'il présentait comme une provocation hostile d'Israël.
Depuis le 14 mai dernier, Oleg Sentsov est en grève de la faim dans sa prison en Russie. Le cinéaste ukrainien dénonce sa condamnation à 20 ans de prison pour terrorisme et trafic d'armes, car Sentsov est d'abord un militant de la cause ukrainienne, opposant farouche à l'annexion de la Crimée par la Russie de Poutine. Son état de santé inquiète aujourd'hui ses partisans. En France notamment, un collectif se mobilise pour obtenir sa libération. Depuis vendredi, des cinéastes, mais aussi d'autres personnalités, se relayent devant devant l'ambassade de Russie à Paris pour un jeûne de soutien à Sentsov. Invité de ce journal, Christophe Ruggia, coprésident de la Société des réalisateurs de films. Bonsoir.
Bonsoir.
Christophe Ruggia, vous êtes la cheville ouvrière de ce collectif de soutien. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles récentes de l'Oleg Sentsov?
On a des nouvelles qui datent de vendredi dernier. Quand son avocat, Dmitry Dins, l'a vu à la Bitangui, dans la prison. Oleg Sentsov a écrit une lettre à sa cousine, Natalia Kaplan, où il lui disait qu'il avait passé un nouveau stade dans sa grève de la faim, un stade qui devient extrêmement dangereux. C'est-à-dire que les globules rouges ne peuvent plus transporter l'oxygène vers les organes vitaux, et donc il y a une asphyxie des organes vitaux. Faire enseigner auprès d'un spécialiste de la dénutrition, Michel Elchaninov, des Nouveaux Dissidents, a contacté ce professeur pour lui poser des questions précises sur cet état dans lequel il se trouvait aujourd'hui. Il nous a dit que s'il n'y avait pas une sonde qui lui balançait de l'oxygène pur directement dans le corps, il y avait des risques que ce soit une question de jour maintenant. Et que donc la seule possibilité d'empêcher ça, c'était de lui faire avaler une sonde qui balance de l'oxygène de manière à réoxygéner le sang et du coup les organes. Mais qu'à ça, il y avait deux conditions. Un, il fallait qu'Oleg Sentsov accepte d'avaler cette sonde. Et deux, il fallait que les médecins acceptent de lui faire avaler cette sonde. Voilà. Ce qui nous a aussi très inquiétés sur ces dernières informations qu'on a eues, c'est que Oleg, pour la première fois, ne se projette pas dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il a envoyé à Natalia Kaplan son testament, qui est assez simple en fait. Il donne 50% des droits de toutes ses œuvres. Alors bon, il en a pas fait énormément quand il était dehors, mais depuis qu'il est à l'intérieur de la prison, il a écrit, je crois, 5 scénarios, un roman, je ne sais combien de pièces de théâtre. Et donc son testament, c'est qu'il donne 50% des droits à sa compagne et 50% à ses deux enfants, qui ont 12-13 ans, dont une fille et un garçon, dont le garçon est autiste.
Christophe Ruggia, Oleg Sentsov refuse de demander sa grâce à Vladimir Poutine. À partir de là, comment peut-il espérer sortir rapidement de prison?
Demander sa grâce à Vladimir Poutine serait accepter que Sentsov est coupable de quelque chose. Or, il n'est coupable de rien du tout. C'est pour ça qu'il refuse de demander grâce pour un crime qu'il n'a pas commis. Ce serait complètement aberrant. Et donc, évidemment, on voit bien le piège qu'on est en Poutine. C'est-à-dire que si Sentsov demande la grâce, ça veut dire qu'il se reconnaît, qu'il est coupable. Donc, Poutine pourra, d'un geste magnanime, le libérer, peut-être, ou je ne sais quoi. Mais le combat que mène Sentsov, c'est un combat très politique. Il faut voir que Sentsov et les 70 Ukrainiens pour lesquels il se bat, c'est ça qui est assez magnifique dans le combat de Sentsov, c'est qu'il se bat pour les autres. Il demande même pas sa propre libération, nous on la demande. Mais lui demande la libération des autres prisonniers politiques ukrainiens, et pas la sienne. Aujourd'hui, ça bloque au niveau des échanges entre la Russie et l'Ukraine. On sait qu'il y a beaucoup de Russes qui sont prisonniers aussi en Ukraine. Ça bloque pourquoi? Parce que Vladimir Poutine ne peut pas échanger des Russes contre des Russes. Donc, s'il échangeait Oleg Sentsov et les autres prisonniers ukrainiens, ce serait reconnaître qu'ils ne sont pas Russes, donc qu'ils sont ukrainiens, puisqu'il y a des échanges avec l'Ukraine. Et comme ils viennent de Crimée, ça veut dire que la Crimée appartenait à l'Ukraine et que donc c'est reconnaître de facto l'annexion de la Crimée. C'est pour ça que Poutine ne veut pas entendre parler d'un échange de prisonniers, parce que ce serait reconnaître l'abjection de ce qu'il a fait.
Donc là,
ce serait reconnaître son crime, en fait.
Là, on est véritablement au cœur du combat d'Oleg Sentsov, c'est qu'il refuse l'annexion de la Crimée par la Russie de Poutine.
Absolument. Ce que normalement l'Europe et le reste du monde, les démocraties, auraient dû refuser. Il faut que ce soit un réalisateur, comme ça, un jeune cinéaste, qui se retrouve à lui-même essayer de sauver l'honneur de l'Europe et des démocraties mondiales. C'est quand même hallucinant.
Christophe Ruggia, justement, est-ce que selon vous, la France en fait assez pour soutenir Oleg Sentsov?
Non, bien sûr que non. Ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Europe. Il n'y a que les États-Unis, j'ai envie de dire, qui commencent à sérieusement taper sur la Russie avec les sanctions. Après, au niveau de la France, elle est inaudible. Moi, je suis désolé. Jusqu'à présent, on a entendu de sources diplomatiques, Emmanuel Macron aurait parlé de moi, je suis d'une génération qui a connu l'apartheid, qui a connu le Sakharov, qui a connu les grands mouvements de libération, de soutien aux dissidents. Et je me rappelle de paroles extrêmement puissantes, extrêmement fortes d'hommes politiques à l'époque, d'hommes ou de femmes politiques, des paroles qui étaient des paroles publiques, pas des paroles de la diplomatie dit que, une source diplomatique dit que. Non, des paroles très fortes. On se rappelle de Mitterrand qui va à la Douma au Kremlin, devant le maître du Kremlin, parler de Sakharov.
Et ça n'est pas le cas d'Emmanuel Macron aujourd'hui.
Je sais pas, à votre avis. Vous l'avez entendu, vous. Voilà, donc la réponse, elle tombe d'elle-même.
Christophe Ruggia, co-président de la Société des réalisateurs de films, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. En France, la précarité touche de plein fouet 1 400 000 personnes âgées, selon une étude de la DRES, un organisme officiel. Il s'agit là de seniors qui ne reçoivent ni revenus d'activité, ni pension de retraite. Un tiers de ceux qui vivent cette situation sont sous le seuil de pauvreté. Et le chiffre serait encore plus élevé s'il n'y avait pas les transferts sociaux, Jean-Marc Chardon.
C'est sans doute le principal intérêt de cette étude, montrer que s'il n'existait pas de système redistributif, le nombre de seniors pauvres qui n'ont pas d'emploi et ne sont pas en retraite ne compterait plus pour un tiers, mais près de la moitié d'entre eux. Alors qui sont-ils au juste ? Ils ou elles, car ce sont le plus souvent des femmes, ont passé le cap de la cinquantaine. En majorité de profession ouvriers, employés, peu d'études à la clé, sans espoir de retrouver un travail. L'une des raisons invoquées qui explique fréquemment leur situation, le fait qu'ils ou elles ont des problèmes de santé ou font face à des situations de dépendance. Peu mobiles, ces seniors qui peuvent être encore loin de la retraite. Voilà qu'ils se retrouvent autour d'un niveau de vie sous la barre du revenu médian de 1 270 €, mais qui peut être beaucoup moins, contre une moyenne d'un peu plus de 2 000 € pour ceux qui, dans la même tranche d'âge, disposent d'un emploi. Tant qu'ils ne parviendront pas à atteindre la retraite, la situation des ménages qui vivent dans cette forme de précarité a peu de chances de s'améliorer, à l'inverse des couples où le conjoint reste en activité. Les seniors seuls étant aussi menacés d'être aspirés par ce phénomène qui prend l'allure d'une trappe à la pauvreté.
Jean-Marc Chardon, merci. L'actualité politique est dominée ce soir par un nouveau départ au gouvernement, ou tout au moins l'annonce d'un départ. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sera candidat à la mairie de Lyon en 2020, un fauteuil qu'il a déjà occupé de 2001 à 2017. Et pour faire campagne, il quittera ses fonctions, place Beauvau, après les élections européennes de mai prochain. Incontestablement, Stéphane Robert, la bataille des municipales a déjà commencé.
Les élections municipales, on a l'impression qu'on en est encore loin, mais en réalité, c'est une échéance qui approche à grands pas. C'est mars 2020, dans 18 mois, un an et demi. Autant dire demain, quand on prépare sérieusement une campagne électorale. D'ailleurs, les grandes manœuvres ont déjà commencé dans de nombreuses villes en France. Jean-Luc Mélenchon est déjà en campagne à Marseille. Un affrontement sanglant s'annonce pour la mairie de Nice entre Christian Estrosi et Éric Ciotti. À Paris, plusieurs candidats se sont déjà fait connaître pour affronter la maire sortante Anne Hidalgo. Et à Lyon, c'est la même chose. Il est temps, selon le député du Rhône Bruno Bonnel, que Gérard Collomb redescende dans l'arène.
Il y a une situation locale qui est qu'on constate une montée de la droite extrême et également, négligeons pas, Marion Maréchal sur l'extrême droite sur notre territoire. Donc moi, je pense que se poser en rassembleur, c'est important. Il faut du temps pour régénérer un certain nombre de volontés politiques. Donc partir tôt, c'est aussi bien se préparer.
Alors certes, on peut s'interroger sur le calendrier de Gérard Collomb, sur le fait qu'il annonce ça maintenant, après le départ de Nicolas Hulot, et alors qu'Emmanuel Macron connaît une rentrée difficile. Mais il ne faut pas imaginer que ce serait le fruit d'une brouille, d'un désaccord entre le président de la République et son ministre. Gérard Collomb a été et reste l'un des plus fervents soutiens d'Emmanuel Macron. Il a été l'un des grands artisans de sa victoire à la présidentielle. Il est l'un des rares qui puisse dire publiquement son désaccord sans que ça porte à conséquence. Ça a été le cas sur les 80 km/h et plus récemment après l'affaire Benalla sur le manque d'humilité. Non, ce qui se passe, c'est que Gérard Collomb n'est pas tout jeune, 71 ans, qu'il a atteint son Graal en étant nommé ministre, mais que l'exercice de la fonction ne le passionne pas plus que ça, et qu'il a toujours eu l'intention de retourner à Lyon terminer sa carrière politique. C'est donc ce qu'il va faire, tout en restant au service d'Emmanuel Macron, puisqu'en termes d'ancrage local, les municipales sont une échéance capitale pour La République En Marche.
Stéphane Robert, merci. Toujours au chapitre politique, Gilles Legendre est le nouveau président du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Le député de Paris succède à Richard Ferrand, élu à la présidence de l'Assemblée la semaine dernière. Gilles Legendre a facilement devancé son collègue Roland Lescure par 157 voix contre 107. Le groupe LREM est à lui seul majoritaire au Palais Bourbon Bourbon avec plus de 300 députés. Le temps demain sera sec et chaud dans l'ensemble. Seules quelques gouttes viendront perturber le ciel sur la Bretagne et le Cotentin. Ailleurs, le soleil s'imposera après quelques passages nuageux. À noter un risque d'orage sur les Pyrénées et les Alpes frontalières. Les températures minimales iront de 12 à 21 degrés. Les maximales restent estivales de 22 à 31 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.